Chapitre 6. Depuis le soir où Tilly a affirmé avoir été agressée, Kate prend garde de ne plus passer devant la maison au fauteuil dans l'allée. Leur appartement est situé au milieu de la rue. Elle peut partir à gauche ou à droite pour rejoindre la route principale ou remonter vers Hampstead Village. Désormais, elle prend systématiquement à gauche. Elle ne veut pas tomber malencontreusement sur l'homme qu'elle a dénoncé à la police, 3 jours plus tôt, suite à l'agression imaginaire d'une adolescente. Il ignorait ce qu'elle avait fait, mais Kate, elle, le savait. Elle évite même de poser les yeux sur cette maison. Cependant, quand elle sort pour se rendre à la poste où elle doit retourner les colis des achats en ligne qui ne conviennent pas, ses yeux sont irrésistiblement attirés par cette façade. Une femme se tient devant la porte. Elle n'est pas beaucoup plus âgée que Kate. Elle a de quoi susciter la curiosité avec son long manteau gris, son écharpe à motifs, ses bottines, sa chevelure à cire ramassée dans un chignon perché sur le haut de son crâne qui semble sur le point de s'affaisser. Ses paupières sont soulignées d'un trait d'eyeliner. Elle tire une petite valise et tient des sacs de course sur lesquels on distingue le logo d'un aéroport. Kate la voit fouiller dans son sac et en sortir un jeu de clés avant de s'approcher de la porte. La femme entre et s'arrête devant la console du vestibule pour regarder le courrier. La porte se referme derrière elle. Kate se rend compte qu'elle est seule dans la rue, les yeux rivés à une porte close. Elle se retourne rapidement et poursuit son chemin jusqu'aux rues commerçantes. Après avoir déposé ses colis à la poste, Kate reprend le chemin de la maison. Un itinéraire très agréable, songe-t-elle. Certes, elle a commis une erreur en choisissant cet appartement, mais elle compte bien profiter au maximum de Hampstead Village. Kilburn, c'est un quartier vivant, bruyant, sale, authentique, et Kate l'aime plus que tout. Mais Kilburn n'a pas de centre à proprement parler. Ce n'est qu'une succession de petites rues perpendiculaires à la route principale. Hampstead a ses ruelles, ses recoins, ses portillons, ses cottages, ses contre-allées, ses cimetières cachés, et s'étend sur plus d'un kilomètre, jusqu'au parc situé au nord, jusqu'aux grandes avenues au sud et à l'ouest. C'est le plus pittoresque des quartiers de Londres, et Kate s'en émerveille toujours. Aujourd'hui, elle s'aventure un peu plus loin que d'habitude dans le parc, se perd dans les sentiers, dans un bosquet bruissant, puis elle descend une rue sinueuse bordée de vieilles demeures géorgiennes, jusqu'à ce que soudain elle se retrouve face à un paysage complètement différent. Plat, bas, découpé par des maisons blanches, si moderne qu'elle semble tout droit sortie d'un film de James Bond. Elle s'enchevêtre comme les tuiles d'un toit, reliées par des allées en béton et des escaliers en spirale. Chacune de ces maisons est dotée d'une vaste terrasse avec vue sur les bois de Hampstead Heath. Elle sort son téléphone pour en savoir plus sur ce lieu qu'elle découvre pour la première fois. Elle se trouve devant les HLM les plus chers jamais construits dans le monde entier, une expérience utopiste du gouvernement travailliste des années 1970 qui visait à loger les pauvres comme s'ils étaient riches. À l'achat, le terrain avait coûté 1,5 million de livres. Chaque maison, 72 000 livres. Le projet avait capoté quand le gouvernement avait voulu rentabiliser cet investissement en instaurant des loyers nettement supérieurs aux loyers moyens des logements sociaux. Cela s'était soldé par un scandale retentissant. Désormais, ces maisons font la joie des architectes. Kate déniche même une annonce pour un T3 évalué à plus d'1 million. Qui pourrait se douter qu'un petit bout de monde futuriste se dissimule là, tapis derrière un grand manoir édouardien? Elle prend soudain conscience qu'elle est complètement seule. La rue est déserte. Le vent lui murmure à l'oreille les mots des arbres qui cernent cette étrange enclave. Il lui recommande de partir. Maintenant. Elle n'a rien à faire ici. Elle se remet en marche, presse le pas, se met presque à courir sur cette vaste esplanade, dépasse les maisons, dévale la colline et rejoint la rue principale, ses salons de beauté, ses enseignes qui vendent à prix d'or des objets et des vêtements dont on n'a aucun besoin. En arrivant à hauteur du métro, son regard est attiré par la une du quotidien local, The Hampstead Voice. Elle se fait agresser en plein jour. Elle s'arrête et fixe ses mots, abasourdie. Elle se demande un moment si cette une ne provient pas d'un univers parallèle, d'une réalité dans laquelle elle serait restée trop longtemps alors qu'on ne voulait pas d'elle. Et si, en lisant l'article, elle ne risque pas de s'apercevoir que c'est elle, Kate Forze, 50 ans, mère de 2 enfants, qui a été agressée devant ses HLM déserts, et qui se trouve incapable d'expliquer ce qu'elle faisait là, toute seule, au milieu de l'après-midi. Puis elle repense à Tilly. Voilà 4 jours qu'elle l'a découverte sur le pas de sa porte, et cette vision la hante. Elle se demande s'il pourrait y avoir un lien entre la série d'agressions sexuelles de Hampstead et celle dont la jeune fille a prétendu avoir été victime jeudi dernier, avant de revenir sur ses déclarations. En continuant son chemin, elle passe devant un kiosque. Elle achète The Hampstead Voice et retourne chez elle. Une fois de plus, Rohan rentre tard. Il est pédopsychiatre et travaille au centre Portman à Belsize Park. Être marié à un pédopsychiatre n'est pas aussi utile qu'on pourrait le penser. Apparemment, son époux est capable d'empathie seulement avec les enfants qui souffrent de maladies mentales, tout particulièrement les psychopathes. C'est sa spécialité. Les enfants comme Georgia et Josh, dont l'attitude est parfois étrange mais qui sont parfaitement normaux la plupart du temps, le déroutent complètement. Dès qu'ils ont un comportement typiquement adolescent, Rohan réagit comme s'il n'en avait jamais rencontré de sa vie, comme s'il n'en avait jamais été un lui-même. Cela énerve Kate, car elle a l'impression de n'avoir jamais aussi bien compris l'adolescente qu'elle était que depuis qu'elle partage son toit avec 2 spécimens de cette espèce. C'est comme si, après toutes ces années à élever ses enfants, elle se retrouvait enfin. « Tu as passé une bonne journée ?» s'enquiert-elle de la voix qu'elle emploie pour lui signifier qu'elle veut se montrer gentille. Si elle arrive à amorcer la discussion du soir sur une note positive et que la situation se gâte par la suite, il ne pourra pas lui coller ça sur le dos. Elle se demande si Rohan est capable de détecter les moments où elle en fait trop. Quoi qu'il en soit, il répond d'un ton chaleureux. « Plutôt, oui. Et toi ?» Le voilà dans la cuisine, son mari, un bonnet sur le crâne, emmitouflé dans une épaisse doudoune matelassée pour se protéger du froid mordant de janvier. Il retire son bonnet et le pose sur la table. Il enlève ses gants, découvrant ses longues mains osseuses. Il se déleste de sa sacoche et l'abandonne sur une chaise. Il ne la regarde pas. Il ne se regarde plus. Ce n'est pas grave. Kate n'a pas particulièrement envie qu'il la voie. Il prend le journal posé sur la table et lit la une. Encore une agression ? Oui, juste à côté cette fois. Il hoche la tête et se met à parcourir l'article. En plein jour. Je sais, c'est horrible. La pauvre. Elle allait faire ses courses, une journée ordinaire, jusqu'au moment où elle croise le chemin d'un taré qui se croit tout permis. Elle frissonne en pensant à nouveau à la petite Tilly, à la terreur qui se lisait dans son regard. Georgia entre dans la cuisine. Elle porte une tenue d'intérieur décontractée, short en jersey et sweat à capuche. Kate n'avait pas cela quand elle était ado. Elle avait ses vêtements, son pyjama et rien entre les deux. Rohan lui tend The Hampstead Voice. Lis ça, Georgia. Un agresseur sévit dans le quartier. La dernière fois, ça s'est passé à 2 pas d'ici, en plein jour. Il faut que tu fasses attention. Et s'il te plaît, arrête de te balader avec tes écouteurs dans les oreilles. Georgia prend un air excédé. Je fais toujours attention. Je suis jeune, moi, j'ai encore tous mes réflexes. À mon avis, c'est ce mec, poursuit-elle en tapotant le journal. Le voisin d'en face. Le taré. On dirait grave un violeur. Kate frissonne en pensant au voisin, puis elle rougit de confusion. Elle s'est bien gardée de dire à Rohan et aux enfants qu'elle avait alerté la police et que des agents s'étaient présentés à son domicile pour l'interroger. Elle s'en veut terriblement. Cet acte de délation lui donne à présent l'impression d'être la concierge de service. « Comment va Tilly ?» demande-t-elle. « Elle t'a raconté autre chose à propos de lundi soir ?» Georgia secoue la tête. « Non. J'ai essayé, mais elle se ferme complètement dès que j'aborde le sujet. Elle dit qu'elle a honte. Tu en penses quoi, toi ? Qu'elle a tout inventé ?» Sa fille réfléchit un moment. « Peut-être, ouais. Elle est carrément du style à raconter des histoires. En fait, elle est un peu mytho. Elle a déjà menti sur d'autres trucs avant. Sur quoi, par exemple ? Des petits trucs. Genre dire qu'elle connaît, je sais pas, un rappeur ou un youtubeur, et quand tu lui demandes des détails, tu finis par capter qu'elle en sait rien. Elle dit des trucs pour paraître cool, pour s'intégrer, pour être comme les autres. Elle fait une tronche trop bizarre quand elle découvre qu'on l'a grillée, et après tu te sens trop mal d'avoir détecté ses mensonges. Mais mentir pour quelque chose d'aussi grave, tu penses qu'elle en serait capable ?
Je sais pas, répond-elle en haussant les épaules. Peut-être. Parfois elle s'emballe un peu. Peut-être que cette fois, elle est allée trop loin. Kate hoche la tête. Il n'est pas impossible que l'histoire ait été inventée de toutes pièces. Puis elle relit la une du journal, et l'ombre du doute s'immisce en elle.